Et merci, soyons tous le bienvenu. Bienvenue à l'invitation de notre Seigneur Jésus qui va nous parler aujourd'hui comme d'habitude. Nous allons ainsi lire sa parole. Mais avant, nous demandons à Papa Célestin de prier le Seigneur.
Nous prions. Notre Dieu, nous voici à ce rendez-vous divin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'avoir la sagesse divine pour que nous puissions capter le message que tu as pour chacun, pour chacune d'entre nous. Nous voudrions tout simplement nous recommander à ta grâce, Seigneur, pour que le Saint-Esprit soit réel parmi nous et le Saint-Esprit remplisse et conduise ton serviteur qui a la responsabilité de nous conduire ce soir. Règne parmi nous du début jusqu'à la fin. Nous qui sommes là, tous ceux qui vont écouter ce message en différé ou à la radio, que l'action du Saint-Esprit continue à toucher nos cœurs sur l'organisation de ton œuvre, sur la façon dont ce peuple a travaillé dans le temple. Que le Seigneur soit béni à jamais dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour la prière. Nous demandons à notre sœur Chingalobula de nous faire la lecture et lire pour nous ce passage qui se trouve dans le livre de Deux Chroniques, au chapitre 2, tout le chapitre.
Je vais lire dans la version Louis II. Salomon ordonna que l'on bâtisse une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Salomon comptant 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 pour les surveiller. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, « Fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, notre Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains des propositions et pour offrir les holocaustes du matin » et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour l'Éternel. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler les parfums des parfums devant lui? Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain, en fer, en étoffe teinte, en pourpre, en cramoisi et en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi, et j'y en Juda et à Jérusalem, et que David, mon père, a choisi. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, de cypre et de santal, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper le bois du Liban. Voici mes serviteurs seront avec les tiens. Que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Je donnerai à tes serviteurs qui couperont, qui abattront les bois, 24 000 mesures de froment foulé, 24 000 mesures d'orge, 24 000 bâts de vin et 24 000 bâts d'huile. Hiram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon. « Voici, c'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a choisi roi sur eux. » Hiram dit encore, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi David un fils sage, prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent, Uranabi, fils d'une femme d'entre les filles de Dan et d'un père tyrien. Il est habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en pierre et en bois, en étoffe teinte, en pourpre et en bleu, en étoffe de byssus et de carmin, et pour toute espèce de sculpture et d'objet d'art qu'on lui donne à exécuter. Il travaillera avec les hommes habiles et avec les hommes habiles de mon Seigneur David, ton père. Maintenant, que mon Seigneur envoie à ses serviteurs le froment, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé. Et nous, nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer en radeau jusqu'à Jaffa et tu les feras monter à Jérusalem. Salomon comptant tous les étrangers qui étaient dans les pays d'Israël et dont le dénombrement avait été fait par David son père. On en trouva 153 600 et il en prit 70 000 pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 pour travailler et faire travailler le peuple. Parole de l'Éternel.
Nous rendons gloire à Dieu. Merci beaucoup notre sœur pour la lecture. Bien-aimés, hier, nous avons parlé du début de le fils de David, Salomon, début aux fonctions royales. Le premier acte royal posé, était de rendre un culte solennel à Dieu en lui offrant beaucoup de sacrifices dignes de Dieu. Et quand le Seigneur a vu son serviteur agir à son égard de cette manière, il est apparu à ce dernier pour lui dire, de lui demander quelque chose. Cette chose lui sera donnée. Et Salomon a demandé la sagesse, l'intelligence ou le discernement ou même les connaissances en plus, il a ajouté la gloire, les richesses. Aujourd'hui, ce roi se met au travail. Qu'est-ce qu'il fait? Il convoque les gens. Cette fois-ci, c'est pour la répartition des tâches consistant à construire la maison de l'Éternel et le palais royal. Il utilise ses relations avec le roi de Tyr. Le roi de Tyr qui était l'ami de son père, l'ami de David. Son fils, Salomon, donc, utilise les mêmes relations pour obtenir tout ce qu'il faut pour la construction d'abord de la maison de Dieu et ensuite du palais royal. Voilà, c'est ce que nous avons lu. Bien-aimé, le texte est assez long et nous allons le diviser en deux grandes parties, à partir du verset 1er ou bien à partir du verset 18, ça dépend de la version, jusqu'au verset 9. Et ensuite, à partir du verset 10 jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au verset 17. Nous savons combien de temps nous prenons pour permettre à beaucoup d'entre nous de prendre la parole. Notre texte nous propose deux questions. La question numéro 3 sur les exemples à suivre ou à ne pas suivre, et la question numéro 7 sur la vérité que Dieu nous révèle. Voilà, bien-aimés, ce que nous avons à dire à propos de notre passage du jour. Vous avez alors la parole, bien-aimés. Ok, Papa Célestin, tu peux prendre la parole ou Maman Christine?
Oui, merci pour la parole, Papa José. Juste le tout premier verset, l'ordre que cet homme a de bâtir la maison de l'Éternel. C'est un acte d'obéissance. Un acte d'obéissance vis-à-vis de Dieu, mais aussi un acte d'obéissance vis-à-vis de son feu père, David. Parce que, rappelons-nous, que ce soit dans 1 Samuel, que ce soit dans 1 Chronique, l'ordre avait été donné à Salomon de rester bâtir la maison de l'Éternel. Les préparatifs étaient donnés. Mais on a déjà vu le préparatif des grands projets se faire dans tous les pays. Des achats énormes qu'on a fait, mais le projet est resté sans objet. Mais ici, les préparatifs ont été faits par David. Les offrandes volontaires du peuple étaient énormes et satisfaisantes. Et David et Salomon, c'est vraiment un exemple à suivre dans le sens qu'il a à cœur le message que son père lui a laissé, mais il a aussi à cœur parce qu'il sait qu'il est dans la volonté de Dieu. Ça, c'est vraiment un exemple à suivre, de faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen.
Amen. Un très bon exemple à suivre, de faire ce que Dieu veut. Il fait, il commence. Après avoir loué Dieu, lui donné des offrandes, des sacrifices, vient maintenant l'exécution de ce qu'il a reçu comme devoir de la part de son père. C'est un bon exemple à suivre. Merci. Oui. Au verset qui suit, là nous avons l'enrôlement de la main d'œuvre. Il enrôla 70 000 porteurs et 80 000 tailleurs de pierre pour travailler dans la montagne sous les ordres de 3 600 surveillants. Tout ce que Salomon fait est grand parce que il a dans son cœur un grand projet et comme il est roi, il a toute la population à sa disposition et il pense déjà à ce qu'il doit faire. Ainsi, il enrôle tous ces gens que nous voyons. Ce verset premier, c'est presque la même chose que le verset 16. Là, il y a un peu de précision. Au verset 16, il dit, Salomon enrôla tous les hommes d'origine étrangère. Voilà. Les immigrants, ceux qui résidaient en Israël, ceux qui étaient venus d'ailleurs et qui restaient en Israël, d'après le dénombrement effectué par son père, David. Donc, il sait déjà combien. Son papa a déjà fait ce travail et il vient dans les archives pour voir ce qu'il faut faire. Donc, les immigrants, il y en avait 183 600. Il en désigna 70 000 comme porteurs, 4 000 comme tailleurs de pierre dans la montagne et 3 600 comme surveillants pour organiser le travail de tous ces mondes. Donc, c'est presque la même chose, mais le verset 16 et 17 met un peu de lumière. Donc, j'ai voulu tout simplement que nous sachions, comme nous avons lu, nous avons vu tous, de quoi il s'agit. Merci. Tu veux continuer? Ok. Mais frère Thomas,
oui,
il y a la parole.
Merci. Moi, je suis touché par ce premier verset parce que c'est la même chose que le dernier verset 17, disons 16 à 17, où on fait l'inventaire. On répète ça, que c'est 70 000 qui devait porter les fardeaux, 80 000 tailleurs de pierre dans la montagne et 3 600 pour travailler, surveiller le peuple et le travail. Donc, c'est la même œuvre, le niveau le plus bas, quoi. Et c'est 153 600, donc, immigrants, on leur donne des travaux vraiment durs pratiquement, parce qu'ils sont des étrangers et on doit les mettre au travail. Je suis touché que nous sommes des étrangers, nous tous là qui sommes pratiquement dans l'étude, on est des immigrants comme les autres ici. Mais le Seigneur nous fait grâce, nous venons dans ce pays, nous étudions, nous trouvons du travail, et parfois nous sommes même au-dessus de gens du pays que nous avons trouvé dans ce pays. Et Dieu nous donne de la valeur, parfois de loin plus qu'un simple immigrant peut occuper. Donc, on voit la grandeur de Dieu, la grâce de Dieu, que Dieu nous ait amené dans ce pays à l'étranger. Mais au lieu qu'on nous donne des travaux forcés comme Salomon le fait ici, il y en a parmi nous qui dirigent Et il y en a parmi nous qui ont des postes de commandement et de la dignité et on reçoit même la citoyenneté de ces pays et on devient pratiquement la même chose. Donc nous devons en rendre grâce, quoi. Merci.
Rendons grâce au Seigneur puisque bien que nous soyons immigrants, mais le Seigneur nous aide à ne pas connaître des situations trop difficiles où on nous choisit pour faire des travaux durs. Mais lorsqu'on étudie, on va nous placer là où nos études nous placent, si vous voulez, même si on ne nous traite pas sur le plan salaire avec beaucoup d'égards et tout ça, mais on n'est pas dans la souffrance faisant des travaux durs. Et le frère a ajouté qu'il y a la possibilité de devenir citoyen canadien ou américain si on totalise un nombre d'années et son dossier judiciaire, son casier judiciaire est propre. On passe, on devient comme les autres. Donc, nous avons la grâce du Seigneur et nous devons le reconnaître. Merci beaucoup, notre frère Thomas, pour nous aider à voir ce que Dieu fait de nous. Merci. Papa José, tu as la parole.
Oui, merci beaucoup, frère. Je suis interpellé par le verset 5, parce que Salomon m'apprend que mon implication ou le don que je peux faire ou tout ce que je peux apporter n'a d'équivalent que la compréhension ou la considération que j'ai de Dieu. Si le Dieu en qui j'ai cru est grand, mon implication ou mon œuvre pour lui devra aussi être grand. Si pour moi Dieu est vraiment très grand, ça veut dire que même les dons, la quantité des dons que je dois faire doit aussi être équivalente à la grandeur du Dieu que je sers. Le verset 5 dit, « Faut que je bâtisse une maison très grande. » Pourquoi? Parce que mon Dieu est plus grand que tous les autres dieux. C'est ce qui m'interpelle beaucoup parce que les dons que j'ai faits représentent la grandeur que je vois des dieux. Si vraiment je comprends que Dieu est vraiment très grand, il ne mérite que la qualité. Regardez même au niveau des employés. Salomon va aller à la recherche des employés qui sont vraiment doués, qualifiés pour faire le travail de Dieu. Et ça m'interpelle beaucoup parce que, encore une fois, quelle est la mesure, quelle est la perception que j'ai de Dieu? Et je peux comprendre que les dons que je donne ou mon implication dépend de la grandeur que je vois de Dieu. Si je vois que Dieu est petit, alors je lui donnerai des sous. Si je vois que Dieu est grand, je lui donnerai le meilleur de moi-même. Voilà.
Merci beaucoup. Si je vois que Dieu est grand, je lui donnerai le meilleur de moi-même. Merci. Et encore, qui veut partager. Moi, je monte au verset 3. Je suis en effet sur le point de construire en honneur du Seigneur mon Dieu un temple qui lui sera consacré. C'est ce qu'il a dit, ce qu'il a envoyé à Hiram, le roi de Tyr, que lui, il veut construire un temple pour son Dieu. Ce temple, il décrit ce qui se fera dans tout le verset 3, il décrit tout. Et le verbe est consacré, utilisé pour le temple, est vraiment important. Important dans le sens que c'est son premier ouvrage qu'il fait de consacrer un temple à Dieu. Au lieu de commencer par le palais, mais le temple d'abord. Même si comme le père lui a laissé la tâche de construire, il pouvait commencer par son palais et puis ensuite construire le temple. On voit l'attachement de ce roi au Seigneur. Il lui consacre un temple et il décrit ce qu'on va faire dans ce temple-là. C'est bien de consacrer la journée, de consacrer le moment, de consacrer ceci ou cela en l'honneur du Seigneur. Merci. Papa Célestin.
Oui, merci beaucoup, pasteur Joseph des États-Unis, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je vois ici Salomon qui demande auprès de roi de Tyr, rame des hommes habiles, un homme habile. Et lui aussi, il choisit des hommes habiles que son père a laissé, qu'il va donner. Moi, c'est comme une interpellation, moi qui travaille dans mon église, où je travaille dans le FUMES au service du Seigneur. Nous voyons ici ces hommes habiles, ce sont des hommes capables, mais est-ce que moi, je me rends compte que je suis appelé ou je suis placé à l'endroit où je suis parce qu'on tient compte de mon habileté ou on veut, on me fait confiance. Mais est-ce que je donne, je réponds vraiment à cette exigence-là que je suis une femme ou un frère à qui on peut compter, qui fait un travail excellent et qui a un bon témoignage, ou bien je suis là dans l'œuvre, mais pour ouvrir la porte au diable pour qu'il vienne saccager l'œuvre. Moi, c'est vraiment une interpellation. Est-ce que je suis une femme ou bien un homme habile, ou la version courante dit c'est des hommes spécialisés, est-ce que je suis vraiment à la place où on me considère ou pas. Amen.
Amen. Est-ce que je suis à la place qu'on me considère ou pas? Merci beaucoup, ma sœur. Oui. Je prends aussi le verset 5. La dernière phrase, il dit, moi-même, je ne prétends pas lui construire une demeure, mais seulement un lieu de culte où on lui offrira des sacrifices. Il a dit qu'il va construire un temple grandiose à notre Dieu. Il est plus grand que les autres. Il n'a pas de comparaison au verset 4. Et puis, au verset 5, Il dit, je ne construis pas une demeure, une maison où il peut habiter. Non, parce que il est trop grand, si vous voulez. Mais ce que je veux construire, c'est pour un culte, pour lui rendre un culte, pour donner des sacrifices à ses dieux. Je ne construis pas une maison où Dieu peut demeurer, mais une maison où le peuple peut rendre un culte à Dieu et lui offrir des offrandes ou des sacrifices. Voilà le but de cette maison-là, c'était pour honorer Dieu. Pas pour que Dieu reste là, non. Mais pour honorer Dieu. Et si nous étendons cette pensée, nous arrivons au Nouveau Testament qui nous dit que notre corps est le temple de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. Si Salomon a construit le temple pour louer Dieu, pour faire du sacrifice, notre corps est là aussi pour louer Dieu. Notre corps, qui est aussi le temple de Dieu, est fait pour louer Dieu. Donc, bien-aimés, nous qui sommes chrétiens, nous avons le devoir de louer Dieu par notre corps, de le servir vraiment par notre corps. Merci. Papa José, et ensuite papa ou maman, dans la première case. Merci.
Oui, merci beaucoup, frère, encore pour la parole. Le verset, du verset 4 au verset 6, Salomon, en faisant sa commande, il y ajoute beaucoup de détails. De nos jours, on dirait que ben, c'est pas utile. J'ai juste besoin, voici les besoins que j'ai. Je n'ai pas besoin de dire pourquoi je voudrais avoir cette commande-là. Mais en donnant les si nombreux détails, le but pour lequel il fait sa commande et quel type de commande il aimerait avoir, quel type, au fait, en exigeant cette qualité, il va expliquer en faisant voir que c'est pour son Dieu qui est vraiment grand, comme on venait de l'entendre. Ça, c'est pour moi une interpellation dans quelle mesure c'est dans la mesure où est-ce que les gens avec lesquels je suis en affaire savent qui je suis et pour qui je vis? Est-ce qu'ils peuvent aussi rendre témoignage du Dieu que je sers, du Dieu en qui j'ai cru, comme Hiram va le faire, va le voir à la fin, dans la deuxième partie? Il va dire effectivement que le Dieu d'Israël est le Dieu très haut, il est le créateur de la terre et des cieux. Ça veut dire que cet homme a entendu parler de Dieu, peut-être à travers David, et il va reconnaître le Dieu de David aussi à travers le fils de David. C'est vraiment une vie de témoignage, une vie qui a fait que d'autres qui sont en affaire avec nous ou des personnes qui sont en contact avec nous arrive à connaître, à savoir de qui nous dépendons, pour qui nous vivons, qui est le Dieu en qui nous avons cru. Ça reste une responsabilité. Je voudrais que le Seigneur m'aide à davantage continuer de faire, disons, de répandre l'odeur de sa connaissance auprès de ceux et celles qui sont en contact avec moi, mais qui ne savent pas encore que je vis vraiment pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Voilà.
Là aussi, nous avons un très bon exemple à suivre. C'est que Salomon a dit, c'est bien, puisque le roi de Tyr reviendra avec ses propres mots, mais c'est la même chose. Un Dieu qui est élevé. Merci beaucoup. Nous donnons la parole à papa ou à maman.
Oui, merci papa José pour la parole. Le verset 8 est interpellant pour moi. Même ça commence à partir du verset 7 où il demande du bois de cèdre, il demande les cibres et des santal. Et puis, dans la même lettre, il a demandé des experts pour le travail. Mais le verset 8, on nous dit qu'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je veux bâtir sera grande et magnifique. Nous sommes en train de méditer, en fait, les préparatifs de construction d'une maison. Et nous verrons comment le début des travaux commence au chapitre 3. Nous, il ne sera peut-être pas demandé de construire une maison. Ce que Salomon est en train de faire, il suit les instructions pour le travail de Dieu que Dieu lui a demandé, que son père qui servait Dieu lui a demandé. C'est toujours bon que nous puissions réfléchir comme papa José parlait tout à l'heure. Mais moi, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Et Salomon est en train de dire que je veux bâtir une grande et magnifique maison pour mon Dieu. Pour montrer combien, quand nous avons le travail du Seigneur, nous devons commencer par donner de la valeur à ce que Dieu nous a donné à faire, à accomplir. Et quand nous devons donner de la valeur à cela, nous devons chercher l'excellence dans ce que nous devons faire. Parce que nous ne le faisons pas pour un homme. Des fois, nous pensons, on nous confie du travail à l'église, on nous confie du travail à Fumès. On est tellement borné en tant qu'humain, on pense qu'on travaille pour un homme. Et Salomon est en train, même s'il a reçu des instructions pour venant de son père qui n'est plus, mais il est très convaincu que ce qu'il est en train de faire, il le fait pour Dieu. Ça doit vraiment beaucoup, beaucoup nous interpeller. Tout ce que nous sommes appelés à faire, nous devons chercher l'excellence. Le bricolage n'appartient pas à la maison de Dieu. À la maison de Dieu, c'est l'excellence. Comme Paul pouvait dire aux Corinthiens, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Chaque jour, nous devons chercher l'excellence que ce que nous avons fait hier. Amen.
Merci beaucoup. Cherchons l'excellence pour le travail de Dieu, puisque ce Dieu que nous adorons, que nous louons, à qui nous appartenons, il est grand. Il mérite tout ce qui est beau et bon. Merci. Je donnerai la parole à maman Christine. La main n'est plus. Bon, ok. Le verset 9, il s'engage. Salomon s'engage de son côté à faire quelque chose. Il dit, de mon côté, je fournirai pour tes bûcherons occupés à couper les arbres 6000 tonnes de semoule de blé, 6000 tonnes d'orge, 800 000 litres de vin, 800 000 litres d'huile. Voilà ce que lui est appelé à fournir au roi. Quand on voit bien, il s'agit ici de des denrées alimentaires. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas les robots. Ce sont des hommes qui ont besoin de manger pour bien travailler. Et cela nous donne vraiment une leçon. Lorsqu'on confie du travail à quelqu'un, il faut songer à
le nourrir.
Doit manger, songer à sa faim, songer à tout, parce que il a un corps et ce corps a besoin d'être entretenu. Merci. Nous pouvons maintenant attaquer la dernière partie, à moins qu'on ait quelque chose à dire à la première partie. On peut déjà parler de à partir du verset 10 et jusqu'à la fin. Oui, je ne vois pas la main qui était là à la première case. Non, elle n'est pas là. L'opérateur peut continuer. Au verset 10, le roi de Tyr répond en disant, c'est parce que le Seigneur aime son peuple qu'il t'en a fait le roi. Ce roi païen voit notre Seigneur, dans l'élévation de Salomon. C'est parce que le Seigneur aime son peuple Israël. Et c'est vrai, il aime son peuple. C'est une bonne confession. Au verset 11, il faut remercier le Seigneur. C'est toujours ce roi païen qui dit. Il faut remercier le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui a créé le ciel et la terre. Alors que le roi Salomon, lorsqu'il parlait de la construction grandiose de la maison de Dieu, il a dit tout simplement que notre Dieu est plus grand que n'importe quel Dieu. Voilà qu'ici, le roi païen voit en Dieu de Salomon le Créateur. Ce qui est juste. Ce qui est juste. Il faut remercier le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui a créé le ciel et la terre. Voilà. Donc, le témoignage de ce roi est encourageant parce que il dit ce qui est vrai. Peut-être c'est un langage diplomatique, mais pour nous, c'est un bon témoignage. Il confesse que le Dieu d'Israël est le Créateur. Tandis que chaque pays, à l'époque, avait son Dieu. En disant le Dieu d'Israël est le Créateur, il diminue le Dieu de son pays. Et il élève le Dieu d'Israël. Que le Seigneur soit béni.
Amen.
Ah. Oui, maman Christine, tu as la parole.
Oui, non, c'est pas maman Christine, c'est papa Célestin.
Ok, merci.
Je peux parler?
Bien sûr.
Merci. Donc, effectivement, à partir du verset 12, cette lettre, le contenu est très, très profond. Il dit que je vais t'envoyer maintenant un homme habile. Donc, il va lui envoyer un ingénieur métallurgique qui sait gérer les métaux, qui sait travailler les métaux. Cet expert a une intelligence éprouvée, il donne même son nom, Oram Abi. Mais tous les détails vont faire que cet homme a vraiment des qualités. Il sait travailler l'or, il sait travailler l'argent, il sait travailler le bronze, il sait travailler le fer, ainsi de suite. À la fin du verset 13, on va dire, il connaît tout l'art de la gravure. Il connaît toute la fabrication des objets qu'on lui donnera. Bref, c'est un homme, c'est un expert. Un expert qui touche beaucoup, beaucoup de domaines. Si je peux vraiment actualiser cet homme qui va être mis au service de l'œuvre de Dieu, je dirais, Dieu a donné aussi des qualités à ses enfants sur cette terre des hommes. Il y en a qui ont de l'expertise dans le domaine de météo, il y en a qui sont ingénieur en ceci, ingénieur en cela. Mais tout cela, toute l'expertise sur cette terre des hommes doivent être placées au service de Dieu. Une expertise qui n'est pas placée au service de Dieu, qui est placée au service du diable, c'est comme si la personne est venue sur cette terre pour perdre son temps. Dieu a donné des potentiels, Dieu a permis qu'il y ait des études, Dieu a permis qu'on se déplace de notre pays jusqu'ici pour créer beaucoup d'expériences, tout. Alors tout doit être mis au service de Dieu. Quelle interpellation, frères et sœurs, pour dire, qu'est-ce que je connais? Est-ce que je mets cela au service de Dieu? C'est au service du diable que ça sert. Amen.
Qu'est-ce que je connais? Est-ce que je mets cela au service de Dieu? Bien-aimé, cet homme est doué. Il a comme père un Tyrien. Et comme mère de la tribu des Dan. C'est-à-dire, une partie, il est Tyrien, et une autre, il est Israélite. Et il est envoyé là-bas, pas comme totalement un étranger, mais il est allé chez oncle. Voilà. Donc, il va participer à la construction de la maison de ses grands-parents aussi. Voilà. Donc, Hiram, il a fait cela, ou bien le Seigneur l'a dirigé pour qu'il choisisse cet homme comme il était habile. Parce que quand il sera là-bas en Israël, les Israélites, même Salomon, le verraient aussi comme leur propre fils. Voilà, donc il n'y a rien qui arrive sans que le Seigneur arrange ou prépare. C'est vraiment une bonne chose. Et c'est bien aussi que celui qui a écrit ce récit puisse reprendre cela. Il est à la fois Syrien et Israélite. Voilà. Bien-aimés, je crois que nous pouvons nous arrêter à ce niveau. Le reste, le roi Syrien demande au roi Salomon d'exécuter, d'honorer ce qu'il a dit. De ton côté, envoie-nous le blé, l'orge, l'huile et le vin dont tu as parlé. Voilà, dont tu as parlé. Il a bien fait de souligner cela. Parce que ça ne vient pas de moi, mais tu as parlé de cela, alors on voit nous. Et ici, nous savons que le roi Salomon a fait cela parce que ce ne sont pas de l'huile ou de tout ce qu'il a cité lui-même qui manque. Il va faire cela pour que son honneur soit vraiment gardé. Bien-aimés, nous voyons en un mot Salomon qui se prépare solidement à la construction de la maison de Dieu. Et lui-même dit que c'est une maison grandiose, une maison qui sera vraiment majestueuse, magnifique, parce que nous avons un Dieu incomparable. Alors, il faut lui donner quelque chose qui convient à lui. Il ne s'agit pas d'une maison d'habitation, mais il s'agit plutôt d'une maison d'adoration, une maison pour lui rendre un culte, une maison pour lui offrir des sacrifices. C'est ça. Alors, nous avons besoin de ceci et de cela. Ça, c'est ce que Salomon a dit et son correspondant a vu que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ce n'est pas un Dieu comme leur Dieu, mais le Dieu d'Israël est plus grand que tous les dieux. C'est vrai. Et ce Dieu d'Israël, c'est notre Dieu. Mon Dieu, ton Dieu, notre Dieu. Et nous devons être fiers. Et il faudrait que nous puissions refléter ce Dieu dans notre comportement, dans notre vie. Que nous ne donnions pas une image sombre, terne de notre Dieu, mais que les gens voient en nous les serviteurs ou les servantes ou les croyants de ce Dieu-là. Et eux aussi vont le confesser, comme cet homme a confessé Dieu d'Israël comme étant le Dieu créateur. Voilà, bien-aimés, ce que nous pouvons dire de ce passage qui est aussi riche en enseignements et que nous pouvons peut-être demain continuer ou bien revoir un peu les choses que nous n'avons pas compris ou que nous n'avons pas eu le temps de revenir là-dessus. Merci, que Dieu soit loué. Nous allons donner le passage de demain, c'est le chapitre 3 de Chronique, le deuxième Chronique. Nous lisons les 17 premiers versets. Ça, c'est pour demain. Et le dimanche, nous serons au chapitre 4. Nous lirons tout le chapitre 4 le dimanche. Voilà pour ce qui est de référence biblique à lire demain et après-demain. Papa, tu as la parole pour nous dire combien ils sont là et s'il y a aussi d'autres communiqués, tu peux le faire.
Oui, merci Papa José. À la radio, nous avons les frères et sœurs d'Ontario, du Québec, d'Alberta. Nous bénissons leur présence continuelle ou permanente à la méditation chaque soir. La deuxième annonce, c'est le préparatif du camp. Le préparatif du camp, nous allons voir la construction de la maison de Dieu avec Salomon. Et c'est tout le monde qui est impliqué, qui met la main à la pâte pour l'édifice de Dieu, c'est nous aussi, nous devons nous sentir concernés en tant que famille pour la préparation de cet événement qui sera tout simplement pour la gloire de Dieu et non pour la gloire d'un homme. Merci.
Merci beaucoup. Nous demandons à notre sœur Agnès de prier le Seigneur et de penser à ce camp que nous préparons. Que Dieu glorifie son nom, pas le nom de quelqu'un, mais le nom de Dieu, et qu'il fasse tout pour sa gloire. Prions avec notre sœur, Maman Agnès.
S'il vous plaît, pasteur.
Oui.
Que je lise dans le pain du jour.
Demander que tu fasses la prière finale.
Merci Seigneur pour cette journée. Nous voici à la fin de la journée. Merci pour nous avoir donné la vie aujourd'hui et nous permettre de nous rassembler encore une fois pour écouter ta parole. Nous te louons, nous te glorifions. Bénissez toute nos familles, bénissez tous les autres frères et sœurs qui sont à travers le monde. Mettez la paix dans le monde, Seigneur. Donnez-leur à manger, pensez à leurs besoins. Et Seigneur, nous revenons encore en toi une fois, parce que vous êtes Dieu, vous êtes tout, et vous surveillez tout ce qui se passe. Vous avez des radars par-ci, par-là. Mettez la paix. La paix, Seigneur. Vous vous avez fait ni peau blanche, ni peau noire. Les deux couleurs, vous les avez faites, mais nous sommes égaux devant toi, Seigneur. Mets la haine entre la peau blanche et évite la haine entre la peau blanche et la peau noire. Tout ce qui se passe ici, dans le pays où nous habitons, Seigneur, est vraiment affreux. C'est quelque chose qui n'est pas venu de vous. Seigneur, aidez-nous à nous aimer les uns les autres, parce que ça, c'est un de vos commandements. Et nous avons prié ainsi au nom de votre Fils Jésus-Christ. Amen.
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 Oui. Merci beaucoup, Maman Agnès, pour la prière. Bien-aimés, nous allons, dans quelques minutes, à écart, nous allons prendre un autre chemin. Cette fois-ci,